VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro du Monde Aujourd'hui. Jacques Aristide avec vous. Nous sommes le mercredi 30 mai 2018 à la une ce soir. Enlèvement d'une vingtaine de civils dans l'est de la RD Congo. Visite du patron de l'ONU à Mopti, au Mali. Antonio Guterres promet de soutenir la force du G5 Sahel. Au Zimbabwe, la présidentielle aura lieu le 30 juillet prochain, premier scrutin de l'après Mugabe. Corée du Nord, le bras droit de Kim Jong-un rencontre l'américain Mike Pompeo pour préparer le sommet avec le président Trump. Le groupe État islamique revendique l'attaque de Liège en Belgique. Et puis, ne manquez pas vos rendez-vous avec l'économie et les sports en fin de journal. Deuxième jour de la tournée du secrétaire général de l'ONU au Mali, où les Nations Unies mènent actuellement leur plus périlleuse mission de paix. À Mopti, ce mercredi, Antonio Guterres a plaidé pour un soutien accru à la force conjointe mise sur pied par les pays du G5 Sahel pour lutter contre les djihadistes. De Mopti, la correspondance de Mamadou Boukoum.
Cette visite de quelques heures a été l'occasion pour Antonio Guterres de faire une série de rencontres à Mopti. Tout d'abord, le secrétaire général des Nations Unies a eu un tête-à-tête avec l'état-major du G5 Sahel. Ici, il a été question de l'opérationnalisation de la force des 5 pays du Sahel, une force qui attend beaucoup des Nations Unies. Didier Dacko est le chef d'état-major général du G5 Sahel.
Ce que nous attendons de l'ONU, c'est ce que nous attendons de toute la communauté internationale, un appui. Un appui dans toutes les dimensions, que ce soit sur le plan opérationnel, que ce soit sur le plan logistique.
Cette mission de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière est appréciée par le plus haut fonctionnaire international. C'est pourquoi Antonio Guterres s'est engagé à mettre tout son poids pour appuyer le G5 Sahel afin qu'il réussisse sa mission.
Nous ferons un plaidoyer très fort face à la communauté internationale pour que le G5 puisse disposer des ressources financières et matérielles nécessaires à son efficacité. Et nous demandons aussi à la communauté internationale un grand investissement pour le développement de la région, le développement du Sahel, parce qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix.
Le numéro 1 des Nations Unies a aussi rencontré les leaders communautaires et les organisations de la société civile. Avec ces deux couches, il a été question de la situation que vit la région de Mopti. Mamadou Boukoum à Mopti pour VOA Afrique.
Une vingtaine de civils ont été enlevés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces enlèvements ont eu lieu à 75 km au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. D'après une ONG basée à Rutshuru, ils se déroulent depuis le week-end dernier. Les ravisseurs demandent des rançons pour libérer leurs otages, alors que les familles commencent à s'organiser pour libérer les leurs. Un groupe de jeunes de Rutshuru appelle à une journée sans travail avec une marche pacifique demain jeudi. Plusieurs groupes armés actifs dans le Nord Kivu prétendent lutter contre le président congolais Joseph Kabila. RD Congo toujours, 5 personnes, dont 2 Britanniques, selon les autorités congolaises, ont été légèrement blessées dans l'accident d'un petit avion de l'ONU. L'accident est survenu au décollage sur une piste située à Kamunia, dans la région du Kasaï. Les 2 membres d'équipage et 3 passagers ont été légèrement blessés et emmenés dans un établissement médical local, précise le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, dans un communiqué. Au Zimbabwe, c'est officiel, les premières élections présidentielles et législatives de l'après Robert Mugabe seront organisées le 30 juillet. L'actuel président Emmerson Mnangagwa est présenté comme grand favori. Les précisions de John Lyndon.
Ancien vice-président tombé en disgrâce, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a succédé en novembre dernier à Robert Mugabe, contraint à la démission par un coup de force de l'armée et de son parti, après avoir régné sans partage depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Sauf surprise, il devrait l'emporter dès le premier tour. Un éventuel second tour est fixé au 8 septembre. Il sera organisé au cas où aucun candidat ne parvient à obtenir la majorité absolue dès le premier tour. Devant les cadres de la ZANU-PF ce mercredi, Emmerson Mnangagwa a appelé ses partisans à se mobiliser pour la campagne. Il aura face à lui le nouveau patron du MDC, le Mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, dont la formation est minée par de profondes rivalités depuis la mort de l'opposant Morgan Tsvangirai. L'opposition, qui comptait rallier les électeurs qui ont quitté le régime autoritaire pour l'étranger, a subi un revers lundi. La Cour constitutionnelle a décidé que les non-résidents ne pourront voter qu'en venant au Zimbabwe. Plusieurs autres candidats, représentants de petits partis, ont aussi prévu de briguer la magistrature suprême.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta promet de récupérer tout l'argent de la corruption, dont le détournement de plus de 60 millions d'euros des caisses du Service national de la jeunesse. « Nous n'aurons pas de pitié pour les voleurs, leurs jours sont comptés », a déclaré le président. Le procureur en chef du pays a annoncé des poursuites contre 54 personnes soupçonnées d'avoir détourné cet argent via des paiements fictifs ou des factures artificiellement gonflées. 24 d'entre elles, dont le directeur du NYS, Richard Ndoubaï, ainsi que la plus haute fonctionnaire du ministère de la Jeunesse, Liliane Omolo, ont été inculpées dans cette affaire. Elles ont plaidé non coupables. Au Nigeria, l'ancien gouverneur de l'État de Taraba, Joly Niamey, a été condamné aujourd'hui à 14 ans de prison pour corruption au terme d'un procès qui a duré plus d'une décennie. Le juge Adepugola Banjoko a déclaré que Joly Niamey s'était comporté comme un voleur ordinaire avec une avidité débridée. Également pasteur d'église, il a été accusé de piller un total de quelque 1,64 milliard de naira, soit 12,2 millions de dollars de fonds publics au cours de ses 8 années au pouvoir. À Madagascar, le président Ir Rajonarman Pianin a déposé une requête auprès de la haute cour constitutionnelle pour obtenir des éclaircissements sur sa récente décision qui lui intime de nommer un gouvernement de coalition. La plus haute instance judiciaire du pays a créé la surprise la semaine dernière en ordonnant la nomination d'un nouveau premier ministre pour tenter de sortir de la crise qui oppose depuis plus d'un mois le chef de l'État à l'opposition. L'Union européenne dénonce les arrestations d'opposants et de défenseurs des droits de l'homme en Égypte après la réélection du président Abdel Fattah al-Sissi. Le nombre croissant d'arrestations est une évolution inquiétante, déplore l'UE. L'opposant Hazem Abdelazim a été arrêté samedi dernier, quelques jours après le placement en détention préventive du blogueur du placement et journaliste Wahel Abbas, un autre blogueur accusé de prôner l'athéisme chez Sherif Gaber, ainsi qu'un auteur de vidéos satiriques, Shadi Abou Zeid, ont été également arrêtés début mai. La Ligue marocaine de défense des droits de l'homme a dressé ce mercredi un tableau sombre de la situation des droits de l'homme au Maroc pour l'année 2017. Dans son rapport annuel, l'ONG affirme que 17 000 manifestations ont été observées l'an passé au Royaume, dénonçant l'approche sécuritaire adoptée à plusieurs reprises par les autorités pour y faire face. Le Maroc a été agité par des mouvements de protestation avec des revendications sociales et économiques dans la région du Rif à Djerada et Zakora.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
D'un millier de migrants ont été évacués du plus gros campement de réfugiés à Paris. Tout s'est déroulé dans le calme. La maire socialiste de la capitale française veut construire plus de centres d'accueil. Le point avec Marie Benson.
Plus de 1000 migrants ont été évacués de la zone qu'ils occupaient le long du canal Saint-Denis dans le nord-est de Paris. Ils ont été transférés vers 24 structures d'accueil, la plupart des gymnases. L'endroit a ensuite été vidé de ses tentes de fortune, puis nettoyé à fond. Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, espère la construction de nouveaux centres d'accueil. Cette évacuation est la 35e opération du genre dans la capitale depuis 3 ans. Le gouvernement français souhaite évacuer sous peu 2 autres gros campements où vivent quelques 800 personnes. Ces migrants viennent principalement du Soudan, de la Somalie et de l'Érythrée. Ils vivaient dans une grande précarité après avoir fui leur pays dans l'espoir d'un avenir meilleur sur le sol français.
Aux États-Unis, rarissime visite du bras droit du dirigeant nord-coréen avec une rencontre prévue ce mercredi à New York avec le chef de la diplomatie américaine. Au menu, les préparatifs en vue d'un sommet historique entre le président Donald Trump et Kim Jong-un. Le groupe État islamique a revendiqué ce mercredi l'attaque menée hier dans la ville belge de Liège par un assaillant qui a tué deux policières et un étudiant. L'assaillant a également été tué par les forces de l'ordre après la brève prise d'otage qui a ponctué son triple assassinat. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Au Liberia, le président George Weah a réduit les taxes à l'importation sur plus de 2000 produits de base pour combattre une inflation galopante. Ces taxes douanières vont baisser de 40 à 81%. Il a aussi exigé au ministère du Commerce et de l'Industrie d'appliquer d'urgence une réduction cohérente et proportionnelle des prix des marchandises concernées pour apporter un soulagement aux populations pauvres. La dépréciation de la monnaie locale rend les marchandises importées impayables pour beaucoup de Libériens. À son accession au pouvoir, Weah avait fait passer de 16 à 13 dollars américains le prix du sac de 25 kg de riz aliment de base au Liberia entièrement importé. Le pays regorge d'importantes ressources de minerais de fer, caoutchouc et huile de palme. Pourtant, la majeure partie de la population manque encore de services de base comme l'électricité et l'eau courante. En Afrique du Sud, le Parlement approuve la loi sur le salaire minimum. Elle permettra à des millions de travailleurs de gagner un salaire minimum de 3500 rand, soit 278 dollars par mois. Pretoria vise à réduire les inégalités salariales que connaît le secteur de l'emploi dans le pays. L'Institut national des statistiques dit que les familles noires, qui constituent 80% de la population totale, gagneraient en moyenne 7 479 dollars par an. C'est 5 fois moins que les blancs, qui représentent 8% de la population et gagnent environ 35 739 dollars par an. La croissance des États-Unis a été révisée en baisse au premier trimestre. Une consommation légèrement plus faible que prévu, un marché immobilier ralenti, des exportations moins fortes et un moindre investissement dans les stocks expliquent cette situation.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous accueillons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Préparation du Mondial 2018, le Japon battu par le Ghana.
L'équipe du Japon, qui évoluera au premier tour dans le groupe H, a été battue par le Ghana, vainqueur des Blue Samouraïs 2-0 à Yokohama, sous une pluie battante. Thomas Partey a ouvert la marque pour les Black Stars non qualifiés pour le Mondial sur un coup franc dès la 9e minute. Emmanuel Boateng a corsé l'addition en tout début de seconde période sur pénalty. Le Japon, qui disputera en Russie sa 6e Coupe du Monde consécutive, aura comme adversaire au premier tour le Sénégal, la Colombie et la Pologne.
Préparation du Mondial toujours, Neuer a joué sans problème un mini-match test.
Le gardien allemand a fait un nouveau pas vers la Russie en jouant un mini-match d'une heure lors du stage de la Mannschaft à Ipan, dans le nord de l'Italie. La Mannschaft, justement, a affronté la sélection U20 allemande, mais Manuel Neuer a pris place dans les buts des juniors pour être mieux sollicité. L'équipe a gagné 2-0 et Neuer n'a été battu que par Thomas Müller sur penalty et par Julian Draxler. Lundi, il a joué 30 minutes dans les buts de l'équipe A pour sa toute première apparition sur un terrain depuis sa fracture du pied avec le Bayern Munich mi-septembre.
Affaire Benzema et les Bleus, on ne peut pas revenir en arrière, d'après Le Graët.
C'est de l'histoire ancienne, d'après le président de la Fédération française de football Noël, Le Graët, ajoutant que l'équipe de France a maintenant son style de jeu. Karim Benzema est écarté des Bleus depuis novembre 2015 et sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la sextape visant un autre international, Mathieu Valbuena. Didier Deschamps décrit son absence comme un choix sportif pour le bien de l'équipe de France et l'équilibre de son groupe actuel.
Et puis, Lyon risque gros devant la commission de discipline de l'UEFA.
L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du club français pour jet d'objets, utilisation d'engins pyrotechniques, perturbation de la foule, escalier bloqué et comportement raciste à la suite du match Lyon-CSKA Moscou. Cette rencontre a vu l'élimination des Lyonnais en huitième de finale de l'Europa League. L'OL sera jugé demain jeudi. La commission de discipline de l'UEFA va aussi se prononcer sur le cas du gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, exclu lors du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. L'Organisation mondiale de la santé dit travailler avec les autorités de la RD Congo afin d'introduire rapidement un premier traitement pour soigner les malades d'Ebola. L'épidémie s'est déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, à la frontière avec la République du Congo, et s'est propagée à Bandaka, où une campagne de vaccination a commencé la semaine dernière. Le dernier bilan fait état de 54 cas, dont 25 décès. Nathalie Barge a joint le docteur Pierre Fromentier, responsable Ebola de l'OMS à Bandaka, dans la province de l'Équateur.
On a compté jusqu'à 4 cas confirmés. Les derniers cas donc confirmés étaient décédés la semaine dernière. Depuis, on n'a pas détecté d'autres cas sur Mbandaka. Par contre, la semaine dernière, on a détecté des nouveaux cas dans les zones de santé de Iboko, et notamment dans un village qui s'appelle Itipo, et dans la zone de santé de Bikoro. Entre tous les partenaires, on a des équipes réparties donc dans ces 4 villes que sont Bikoro, Ifoko Impengé, Itipo, et Iboko.
Combien de personnes ont déjà été vaccinées?
La vaccination a démarré le 21 mai. C'est une vaccination en ceinture qui vaccine les contacts, les contacts des contacts. On est proche d'une population cible qui était environ à 490.
Vous avez prévu de vacciner environ combien de personnes et combien de temps cela prendrait-il?
On vaccine surtout autour des derniers cas confirmés dans tous les villages dont on vient de parler. Là, maintenant, la vaccination sur Mbandaka touche à sa fin. On continue à vacciner des agents de santé dans des centres de santé, des hôpitaux, des cliniques. La vaccination a débuté depuis le 28 à Bikoro, Itipo et aussi dans un autre village qui s'appelle Bononzo. Donc, on a beaucoup avancé là depuis le début de la semaine. On déploie de plus en plus de logistique et de personnes sur le terrain. Encore 10 vaccinateurs sont partis aujourd'hui, des équipes d'Mbandaka pour renforcer les équipes à Itipo.
Alors le vaccin est expérimental, toutefois s'il s'avérait vraiment efficace, est-ce que nous irions vers une vaccination systématique des populations exposées au risque d'Ebola en RDC et dans d'autres régions du continent selon vous?
L'efficacité du vaccin a déjà été démontrée au niveau de la Guinée. Là on continue avec ce lot de vaccins. On est bien dans une vaccination en anneau, c'est-à-dire pour vacciner autour de là où le virus circule, et donc pas de vaccination de masse. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer que, par contre, les agents de santé en République démocratique du Congo devraient aussi se protéger, puisqu'ils sont plus à risque que d'autres pays, par exemple. Et c'est quelque chose avec lequel on discute, notamment avec le ministère de la Santé. C'est quelque chose qu'il faut peut-être envisager au niveau national, c'est-à-dire vacciner les agents de santé de première ligne qui, comme vous le dites, sont plus exposés que les autres à être en contact avec des cas d'Ebola.
Est-ce que vous avez commencé à utiliser certains des 5 traitements non homologués que vous avez proposés à la RDC?
On a pas encore commencé. C'est prévu cette semaine. On attend les dernières autorisations. Les antiviraux sont en cours d'acheminement au niveau de Kinshasa, puis ils viendront à Mbandaka et seront offerts à titre constationnel aux patients atteints de la maladie à virus Ebola.
On écoutait le docteur Pierre Fromentier, responsable Ebola de l'OMS à Bandaka, dans la province de l'Équateur.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Malgré les mesures prises par les autorités nigériennes et l'Union européenne pour décourager l'immigration clandestine vers l'Europe, La traversée du désert du Sahara continue de faire des victimes. Deux migrants africains sont morts de soif et 80 autres ont été sauvés alors qu'ils étaient en route pour l'Europe via la Libye. L'opération de secours s'est déroulée samedi dernier d'après l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. Pour plus d'explications, Abdourahmane Dia a joint Diousepé Loprété, chef de mission de l'OIM au Niger.
C'est l'armée nigérienne qui a identifié, qui a trouvé des pick-up avec des migrants qui étaient dans la zone qui est connue comme l'arbre du Ténéré. Donc, c'est sur la route entre Agadez et Dirkou, donc vers la Libye. Et on a reçu l'appel par les autorités, les gouvernorats d'Agadez. Donc, à partir de ce moment, on a organisé la mission de sauvetage. Malheureusement, quand on est arrivé, on a trouvé la situation confirmée. Il y avait 80 migrants, en réalité 82, et deux migrants en Ghanéen et en Nigérien étaient déjà morts, malheureusement.
Et comment se portent les autres qui ont survécu?
Oui, les autres sont revenus avec nous, sont rentrés à Agadez. Ce qu'ils nous ont raconté, c'est que leur véhicule a eu une panne, les chauffeurs, donc les passeurs qui étaient en train de les transporter vers la Libye, a appelé un véhicule de secours, qui donc quelqu'un d'autre qui arrivait. Quand l'autre véhicule est arrivé, l'armée aussi les a joués, et donc les chauffeurs sont partis sur l'autre véhicule et ils ont laissé les migrants abandonnés dans le désert. Et les autres sont dans des conditions traumatisées, sans eau, avec peu de nourriture, les deux, donc ils étaient très faibles. Quand ils sont arrivés au centre, maintenant on est en train de les soigner et ils sont avec nous. Et maintenant, dans les prochains jours, on va commencer à organiser le retour vers leur pays d'origine, le Nigeria et le Ghana.
Justement, quelles sont les nationalités des personnes qui ont été sauvées pour la plupart?
Oui, Nigeria et Ghana. Il y a des femmes aussi.
Et des enfants?
Surtout du Nigeria. Non, les enfants, je n'ai pas voulu le rapport final, mais on n'a pas entendu qu'il y a des enfants. Donc la traite des femmes nigériennes est encore très forte et ça c'est un exemple.
La route d'Agadez avait connu une baisse, nous dit-on, une baisse d'activité avec les mesures qui ont été prises par les autorités nigériennes et l'Union européenne. Est-ce qu'on peut parler d'une reprise récemment?
Non, pas vraiment. Il y a une baisse et ça c'est confirmé. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à passer parce qu'ils vont sur la route la nuit ou les matins très tôt ou ils essayent de contourner les villages, donc d'utiliser aussi des routes alternatives. Mais on parle pas de la même, on n'est pas à l'échelle comme il y a un an et demi ou deux ans, 2016 par exemple, où il y avait des convois qui passait sur la route même pendant la journée. L'autre route vers l'Algérie est beaucoup plus active maintenant.
On écoutait Diousepé Loprété, chef de mission de l'OIM au Niger.
Cette semaine, dans Washington Forum, retour sur la grève des étudiants qui a récemment agité les campus sénégalais. Suite aux protestations et les affrontements avec les forces de l'ordre, le président Macky Sall a annoncé une augmentation des bourses et une baisse du prix des repas dans les universités publiques. Ces mesures suffiront-elles à calmer les étudiants? L'État sénégalais a-t-il les moyens de soutenir financièrement tous les étudiants? Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants au Sénégal? On en discute ce jeudi à 19h30.
Le nord-est du Nigeria est le théâtre de nombreuses attaques du groupe Boko Haram. Après l'enlèvement de 200 écolières à Chibok, le gouvernement nigérian et des organisations d'aide humanitaire internationale ont lancé l'initiative École Sûre, la Safe Schools Initiative. À Maïdougouri, les écoles organisent des exercices de sécurité d'urgence pour les élèves. Malgré ces mesures, de nombreux enfants risquent toujours leur vie pour obtenir l'éducation dont ils ont besoin. Chika Odua a produit ce reportage de Maïdougouri. Arzuma Kompaoré nous en fait le récit.
Pour ces élèves du secondaire, c'est une journée normale en classe de chimie. Mais quand le sifflet retentit, tout change. C'est un exercice de sécurité. Les élèves pratiquent quoi faire en cas de danger. Les exercices ont commencé cette année seulement. Mohamed Tidjani, âgé de 17 ans, leur sert de guide en simulant le son d'une explosion d'une bombe.
Quand les assaillants arrivent, nous sommes censés pratiquer ces actions pour nous protéger.
Tidjani fait référence à Boko Haram, le groupe terroriste qui a émergé à Maïdogori et déclaré la guerre au gouvernement nigérian il y a 9 ans. Ils n'ont pas encore attaqué cette école et l'administration espère que cela ne va pas changer. Le gouvernement nigérian et les agences donatrices ont mis en place l'initiative pour la sécurité dans les écoles en 2014 après l'infâme enlèvement des écolières de Chibok. Le programme aide à payer pour la formation en sécurité scolaire des éducatrices comme la directrice Kolo Zala. Mais elle doit encore collecter des fonds pour payer les vigiles.
Je suis celle qui finance avec le peu que nous pouvons collecter.
Cette école, la plus ancienne de Maïdougouri, a été attaquée au moins 3 fois. À l'entrée, pas de garde postée. Ce journaliste entre sur le campus sans aucun contrôle. Boko Haram a tué le directeur et un autre éducateur dans cette salle il y a quelques années. Aujourd'hui, la seule protection contre une autre attaque, ce sont ces deux bénévoles âgés qui gardent la porte arrière. Et dans cette école primaire à proximité, malgré les nouvelles mesures de sécurité, au moins 5 enseignants ont déjà quitté par peur.
Boko Haram est toujours une menace pour les écoles à Maïdougouri. Une menace pour les enseignants et même pour la communauté. En dehors des enseignants, les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école à cause de la situation actuelle. On ne peut pas deviner si telle ou telle personne est de Boko Haram.
L'UNICEF a affecté 9 millions de dollars à l'initiative pour la sécurité dans les écoles afin d'améliorer la sécurité dans les salles de classe. Les enseignants de l'école primaire de Galtimari disent que les murs de leur école doivent être renforcés. Alors que la police nigériane a été envoyée dans certains endroits proches des écoles, les éducateurs et les étudiants s'inquiètent de leur sécurité. Quant aux élèves, ils espèrent aller à l'école sans crainte. En attendant, ils comptent sur ces exercices pour les garder en sécurité.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Cheikh Thierro. C'était Sidrak Franklin à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont officiellement transféré le 14 mai leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, capitale d'Israël. En déplaçant notre ambassade à Jérusalem, nous avons prouvé au monde, une fois de plus, que l'on peut faire confiance aux États-Unis, a déclaré le conseiller spécial du président Trump, Jared Kushner. Nous nous tenons aux côtés de nos amis et de nos alliés, et plus que tout, nous avons montré que les États-Unis d'Amérique font ce qui est juste, et nous l'avons fait, a-t-il ajouté. En prenant cette mesure, a dit M. Kushner, les États-Unis ont choisi de renforcer les liens entre les États-Unis et Israël. Ces liens ont été forgés à travers une histoire partagée, des intérêts partagés et immortalisés à travers des principes partagés. Les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que les deux pays croient aux droits humains. Nous nous tenons ensemble parce que nous croyons que la démocratie mérite d'être défendue. Et les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que nous pensons et savons que cela est juste, a déclaré M. Kushner. Israël prouve chaque jour la puissance illimitée de la liberté. Cette terre est la seule au Moyen-Orient où juifs, musulmans et chrétiens et des gens de toute confession religieuse peuvent vivre et prier conformément à leurs croyances, a dit M. Kushner. Les États-Unis demeurent engagés pour une paix durable et sont prêts à soutenir un accord de paix de toutes les manières qu'ils peuvent, a déclaré M. Kushner. Nous croyons qu'il est possible pour les deux camps d'obtenir plus qu'ils ne concèdent afin que tous les gens puissent vivre en paix, à l'abri du danger, libre de toute peur et à même de poursuivre leurs rêves. Les États-Unis reconnaissent que la question de Jérusalem est délicate et continuent d'appeler toutes les parties à maintenir le statu quo concernant les lieux saints de cette ville. Alors qu'Israël entame la 701e année de son existence, une nouvelle page est tournée dans la quête d'une paix durable, a déclaré M. Kouchner. Je pense que la paix est à portée de main si nous osons croire que l'avenir sera différent du passé, a dit M. Kouchner. Le chemin ne sera pas difficile, sera marqué par des moments et des décisions difficiles. Mais si nous avons des grands rêves, si nous menons avec courage, nous pouvons changer des trajectoires de millions de personnes passant du désespoir à l'espoir sans limite.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.